Plus d'une heure d'entretien avec Emmanuel Macron. Une délégation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est à Paris pour travailler sur les urgences budgétaires et présenter le PS2R. Elle était ce matin à l'Élysée. Premier congrès du Parti travailliste depuis la disparition de Louis Cotraeur-Egueille. Un rendez-vous qui se déroule tout le week-end à la Vallée du Tir. Une bourse au vélo sur la place des Cocotiers, des bicyclettes d'occasion et des conseils sur la réparation ont été proposés au grand public ce samedi. À Fort-Terrain-Bas, le Calédonian Show est prévu demain. Une plongée dans l'histoire calédonienne grandeur nature. Explication dans cette édition. L'actualité nationale, Marine Le Pen contre-attaque. C'est ma mort politique qui est réclamée. Déclaration de la députée RN après la peine de 5 ans d'inéligibilité requise contre elle. Le sport du rugby, nous sommes à la veille d'un choc France-Nouvelle-Zélande. Les Bleus retrouveront les All Blacks en test match demain matin. Et en Calédonie, de l'haltérophilie avec la Coupe de Dimbéa, deuxième édition qui se déroulait à la salle Omnisport d'Auteuil. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Je vous le disais en titre, une délégation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est depuis ce vendredi à Paris pour y rencontrer de nombreux acteurs politiques. L'objectif est de travailler avec le gouvernement national sur les urgences budgétaires et financières liées à la situation de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de présenter le PS2R, plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction initiée par la Nouvelle-Calédonie, Léana Colombo.
Composée de son président Louis Mapou et de plusieurs membres du gouvernement, Yannick Slamet, Thierry Santa, Gilbert Thuyénon et Christopher Gigès, cette délégation a été reçue ce matin pour nous à l'Élysée par le président de la République, Emmanuel Macron. Un entretien de plus d'une heure. Le chef de l'État était accompagné de son directeur de cabinet, l'ancien haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Patrice Faure, ainsi que du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Écoutez Christopher Gigès au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert.
Il nous a beaucoup interrogé sur la situation en Nouvelle-Calédonie au niveau sécuritaire, au niveau économique, pour s'assurer que le calme revenait en Nouvelle-Calédonie. Donc on a un président de la République qui est toujours très très attentif sur le dossier calédonien et donc on a pu échanger avec lui sur ces sujets.
La méthode et le calendrier des discussions politiques ont été aussi bien sûr évoqués lors de cet entretien. Le président communiquera le moment venu sur l'une et l'autre, même si les mois de décembre et janvier ont été évoqués lors de l'entretien, révèle Christopher Gigès.
Le président nous a interrogé sur le timing. Il a confirmé sa volonté d'aller vite sur le sujet, mais c'est un sujet qui doit être débattu à la fois avec lui et à la fois avec le gouvernement. Donc là, il nous a surtout interrogé sur quel format, le timing des discussions, mais avec un vrai attachement, un vrai engagement sur le dossier calédonien de sa part, puisque c'est lui qui, le moment venu, de toute manière, convoquera le congrès de Versailles lorsqu'il faudra modifier la Constitution. Néanmoins, il nous a vraiment réaffirmé sa volonté d'aller très vite. Donc, c'est sur les mois de décembre, janvier, pour une rencontre à Paris ou ailleurs. Mais il appartient vraiment au président de la République de s'exprimer sur la méthode qu'il souhaite appliquer.
Auparavant, cette nuit pour nous, la délégation du gouvernement avait rencontré le ministre chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, pour évoquer le PS2R qu'ils vont présenter lundi matin au Premier ministre Michel Barnier.
L'idée de la première rencontre avec le ministre des Outre-mer, c'était vraiment une première rencontre de travail pour préparer la réunion avec le Premier ministre qui se tiendra lundi, pour présenter les avancées qu'on avait sur le plan de sauvetage, de refondation et de reconstruction, puisque le ministre des Outre-mer était venu il y a quelques semaines à Nouméa et on n'avait pas pu lui présenter le plan pré-finalisé. Et donc là, l'idée était vraiment d'avoir un premier échange de travail autour des conventions, autour du plan et autour des besoins financiers de la Nouvelle-Calédonie à la fois pour 2024 et pour 2025, pour assurer la survie des collectivités, le financement du chômage partiel et le financement de la reconstruction. Donc, on attend beaucoup de la rencontre avec le Premier ministre lundi sur ces sujets.
La délégation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie séjournera à Paris jusqu'à vendredi prochain. Ses membres vont notamment rencontrer le ministre de l'Économie, Antoine Armand, et le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, mais aussi les deux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet.
L'actualité politique en Calédonie. Le 12e congrès du Parti travailliste a débuté ce matin. Un rendez-vous qui se tient tout au long du week-end à la Vallée du Tir, à Nouméa. Il s'agit du premier grand rendez-vous du Parti travailliste depuis la disparition du président Louis Cotterêts-Reggey, décédé, on le rappelle, en octobre 2022. Des hommages ont été rendus à l'ancienne figure du parti lors des discours d'ouverture tenus par les trois vice-présidents, Marie-Pierre Goyetch, Kaouch Kaouch et Gilles Nayet. Marie-Pierre Goyetch s'est longuement exprimée quant à la situation que traverse la Nouvelle-Calédonie et les tensions chez les indépendantistes. Elle a réaffirmé plusieurs positions que doit, selon elle, porter le Parti travailliste, soutien à la CCAT de l'Union calédonienne et au FLNKS. Marie-Pierre Goyetch.
Bien sûr, on va rechercher l'unité. Difficile en ce moment de la trouver avec le FLNKS. Le congrès de Padoue s'est tenu avec, en absence du PALICA et de l'UPL. Ils n'ont pas été présents. Mais ce congrès a porté à la tête du FLNKS un président, en la personne de Christian Théin. Il y a également eu l'émergence de la CCAT. Le FLNKS, cet outil de lutte, est en train de subir un orage que l'on voudra que passager. Pour nous, le seul interlocuteur aujourd'hui politique, c'est le FLNKS.
Le Parti travailliste qui demande à avoir une place à part entière dans les discussions politiques et institutionnelles. Les travaux doivent se dérouler donc durant 2 jours avec notamment le renouvellement des instances prévues à l'issue du week-end, le bilan des dernières années et l'évolution des statuts du Parti travailliste. Le couvre-feu prolongé pour une semaine supplémentaire. Le Haut Commissariat a publié sur son site internet plusieurs arrêtés renouvelant les mesures administratives en vigueur et ce jusqu'au 25 novembre inclus, Charlotte Coulson.
Dans le détail, pas de changement pour les mesures mises en place. Elles sont uniquement repoussées d'une semaine. Le couvre-feu reste en vigueur de minuit à 5h du matin. La vente d'alcool est toujours réglementée et limitée. Elle est autorisée du lundi au jeudi de 8h à 18h et le vendredi et samedi matin de 8h à midi. Interdiction toujours pour le port, transport et utilisation de munitions et d'armes à feu. La vente au détail de carburant est prohibée, sauf pour les professionnels. Et enfin, les rassemblements et manifestations dans le Grand Nouméa demeurent également interdits, jusqu'au 28 novembre inclus.
Au chapitre des interventions des secouristes, il y avait notamment des feux de brousse qui sévissaient au Mont d'Or, Léana Colombo.
Oui, depuis jeudi soir, les pompiers étaient mobilisés sur un incendie à Saint-Louis. La sécurité civile et les renforts nationaux étaient présents en renfort dans cette zone, avec une végétation dense et difficile d'accès. C'est la pluie tombée cet après-midi qui aura fortement aidé les soldats du feu à fixer le sinistre. Environ 35 hectares sont partis en fumée. Des habitations ont été un temps menacées, mais il n'y a finalement pas de dégâts ni de blessés à déplorer. À la coulée, un incendie a également été signalé aux alentours de 13h. 2 hectares sont partis en fumée. Les pompiers restent en surveillance active sur l'ensemble du secteur. Et dans un même temps, une partie du Mont d'Or a été victime d'une coupure de courant entre 14h et 15h, une coupure qui serait due à la foudre.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Dans le reste de l'actualité, l'art et la littérature à l'honneur ce week-end au Parc Forestier. L'association artistique Les Possibles propose de découvrir l'exposition Land Art, chemin de curiosité. Plusieurs artistes sont venus animer des ateliers pour l'occasion, Charlotte Coulson.
Et oui, des ateliers sculpture, confection de savon, un chapiteau rempli de livres et même des spectacles. C'est à l'occasion de la deuxième édition de l'exposition Land Art que les portes du Parc Forestier étaient ouvertes au public. Un événement coordonné par Maëva Beauchin, artiste plasticienne.
L'année dernière, on a fait la première édition et cette année, on a réinvité 3 artistes à participer à l'exposition deuxième édition Minéralité. Et dans ce cadre-là de Land Art, on a invité le Silo à venir participer à cette journée, ce week-end d'ouverture de manière à mutualiser les compétences artistiques. On a eu pas mal de monde ce matin. On est parti avec un gros groupe aussi faire l'ensemble du tour de toutes les œuvres des artistes. Les artistes ont parlé de leurs œuvres. Sylvain Lornier nous a lu des textes sur chacune des œuvres. Après, on a eu plein d'ateliers, des ateliers créatifs Land Art avec le public. Et après, toutes les lectures et les discussions et spectacles du Silo.
Un événement organisé par l'association Les Possibles, en partenariat, vous l'avez entendu, du Salon international du livre océanien. Les visiteurs sont venus en famille pour découvrir la littérature locale et assister à des lectures animées.
On a assisté à une lecture de Fin bien ensemble, c'était bien. C'était un spectacle de 2022. De le revoir maintenant, c'est toujours d'actualité.
Alors on est venu voir les livres océaniens, donc voir ce qui existait. Et puis on a eu la chance de tomber sur une représentation théâtrale d'une super troupe. Donc c'était vraiment très chouette.
On a surtout été très agréablement surpris des artistes qu'on a pu rencontrer et puis de la variété des livres qui étaient présentés. Et puis des textes aussi qui étaient lus, qui mettaient un peu en scène aussi les difficultés qui sont vécues aujourd'hui après la crise des relations entre ceux qui sont d'opinion très partagée.
Des activités qui se prolongent demain. Le parc forestier sera ouvert avec une entrée payante, cette fois de 9h à 16h.
À Nouméa toujours, le Cercle Nautique Calédonien organisait des puces nautiques, un rendez-vous qui a réuni de nombreux marins ou passionnés de la mer. Ce matin, ils ont pu revendre certains de leurs biens en échange d'un moment de convivialité et de quelques bénéfices.
Et ben nous, on a acheté un nouveau bateau et il y avait plein de matériel qui venait avec en plus. Et donc, en fait, on vend des petits morceaux. Surtout, on a débarrassé des gros morceaux, ça c'est bien.
La palme, masque, fusil sous-marin, on a tout ce qu'il faut. C'est sympa, on voit du monde. Ça nous suffit si on a passé une bonne matinée.
On est membre du CNC depuis un peu plus de 30 ans. Et donc, on fait vivre un petit peu les puces. Et en offrant un petit panel, c'est plus pour la bonne humeur, en fait. Et la bonne franquette, et on casse les prix, et c'est top, quoi. Des leurres, des disjoncteurs, des réservoirs, des rames, des ancres. Enfin, tout ce qui peut faire le bonheur d'un plaisancier, il n'y a pas de souci, quoi.
Les visiteurs ont aussi trouvé leur bonheur. Ce marché de l'occasion s'est terminé ce matin vers 11h30. Il était donc organisé par le Cercle Nautique Calédonien. Le salon Toyota, pour la deuxième fois de l'année, ouvre ses portes. Rendez-vous réunissant de nombreux Calédoniens qui se tient à la maison des artisans, route de Nouville, Charlotte Coulson.
Et il y en a pour tout le monde. Les petits budgets peuvent trouver leur compte sur le parking dédié aux occasions. Toyota propose également ses nouveaux produits, notamment le Land Cruiser Prado ou bien la Corolla Cross, un salon sur lequel les organisateurs comptent beaucoup pour relancer les ventes de la marque. Alexandre Coulon est directeur commercial chez Toyota.
Alors l'événement, c'était un deuxième événement de l'année qui n'était pas prévu et on voulait continuer notre activité avec une dernière foire de l'année. Compte tenu du contexte aussi où on a eu 5 mois de coupure, une activité qui était très difficile à relancer et on voulait aussi redonner un petit peu d'espoir aux Calédoniens avec justement des tarifs, des taux avec les organismes bancaires, crédit, assurance. Oui, ça relance le marché, tout le monde est content. On a eu pas mal de visiteurs hier. C'est la fibre Toyota, que ce soit un mécano, un magasinier, un laveur de voiture ou un vendeur, ne serait-ce que les responsables, ils sont disponibles à votre écoute et pour vous conseiller au mieux.
Le salon est ouvert depuis 8h30 ce matin et a attiré de nombreux Calédoniens. Certains viennent pour changer de véhicule ou d'autres simplement pour regarder.
Mais là, en fait, je suis allé recharger une voiture, pick-up précisément. Mais là, je suis en train de découvrir un peu tout ce qu'il y a ici sur le salon. Ça donne bien des bons conseils. Et puis, surtout au niveau du prix aussi, ça marche bien.
On est venu voir les nouveautés, les nouvelles voitures. Là, on regarde un peu tout partout et on va réfléchir à prix.
Les pick-up, s'il y a des nouveautés et si les prix sont attractifs. J'ai déjà un Toyota pour le coup, mais on vient voir et puis on se fait du bien aux yeux.
C'est pour bénéficier des prix, surtout comme c'est un salon en général, on peut gagner quelque chose comme les temps sont durs, puis avoir quelque chose de tout neuf, et puis Toyota c'est la sécurité, voilà, c'est tout.
Et le salon Toyota se prolonge demain de 8h30 à 17h.
Une journée pour se remettre en selle. À présent, l'association Droit au vélo Nouvelle-Calédonie organisait aujourd'hui une bourse au vélo sur la place des Cocotiers. Une démarche qui vise à valoriser l'usage quotidien de la bicyclette, Charlotte.
Vous avez un vieux vélo qui traîne de votre garage, qu'il soit en bon état ou enrayé. Pas question de le jeter. L'association Droit au vélo NC propose de les récupérer pour leur donner une seconde vie. Les détenteurs de vélos ont donc pu déposer leur bicyclette ce matin à 8h, puis le mettre à la vente. Une initiative qui a fait le bonheur de nombreux passants.
Je suis venue déposer un cadre de vélo à donner, un vélo de course. Comme je ne peux plus en faire, je me suis dit autant que ça serve.
On est venu regarder pour des vélos pour les enfants, comme c'est bientôt Noël. Alors on pense aux petits-enfants. Ils sont en train de réparer un, car les freins n'étaient pas bien mis, je ne sais pas, je ne connais rien. Alors ils sont en train de faire la mécanique sur ce petit vélo-là et puis ça va faire heureux d'une petite fille.
J'ai amené des vélos que j'avais chez moi pour trouver à les vendre, les donner, ça parce qu'il y en a certains qui sont un peu vieux. Et puis c'est l'occasion aussi d'avoir accès à l'atelier de réparation parce que moi je ne suis pas très douée pour tout ça. Donc voilà. Et puis l'association, c'est bien de les soutenir, quoi.
Et en parallèle de cette bourse au vélo, l'association organise des ateliers d'autoréparation pour apprendre aux détenteurs de vélos à rafistoler eux-mêmes leurs bicyclettes.
Alors, ben, il est 18h.
Ce dimanche, sur la commune de Moindoux, l'association Marguerite proposera à Fort-et-Rimbas, à la place du traditionnel son et lumière, le Calédonian Show, l'occasion de vous plonger dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Écoutez les précisions de Ségolène Lenormand, elle est la directrice de Fort-et-Rimbas.
Une journée d'animation avec en point d'orgue de cette journée un spectacle historique. Les Calédoniens sont habitués à voir le spectacle du son et lumière qu'on organise tous les ans en soirée. Et cette année, on a voulu innover dans une nouvelle formule qui sera un spectacle durant une journée. Donc ça sera un spectacle historique, comme le public a habituellement l'habitude de voir le spectacle, un spectacle vivant, avec une centaine de figurants de l'association Marguerite en costume, et retraçant l'histoire de la Nouvelle-Calédonie à l'époque du bagne, mais également à l'époque de la présence américaine, et une petite partie aussi sur la brousse dans les années 60.
Ségolène Lenormand, la directrice de Fort-et-Rimbas, le Calédonian Show débutera à 10h à Moindoux. Et puis ce dimanche toujours au Mont d'Or, cette fois c'est un marché spécial culinaire qui se tiendra demain de 6h à 13h. Ça se passera donc au marché municipal de Boulary. Il est 18h passé de 1 minute, une page de pub avant de voir ce qui fait l'actualité nationale et dans le monde. Le scandale quand un député de la France insoumise achète de la drogue avec de l'argent public. A tout de suite.
Ça bouge au marché de Boulary ce dimanche 17. Retrouvez-nous pour le marché culinaire avec Olive Hendry à l'animation. 35 exposants seront là pour vous accueillir ou faire déguster leurs meilleurs produits. Info line Facebook, les commerçants du marché de Boulary. Téléphone 96 07 09.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout-petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et la suite journal avec vous, Michael Juneski.
À l'actualité nationale, de nouvelles révélations dans l'affaire Andy Kerbrat, ce député de la France Insoumise, avait été arrêté par la police mi-octobre à Paris, pris en flagrant délit alors qu'il achetait de la drogue. Il y a pire encore, cet élu LFI aurait donc acheté ses produits stupéfiants avec de l'argent public. Yael Braun-Pivet a saisi le déontologue de l'Assemblée nationale, Jacques Serret pour Europe 1.
Yael Braun-Pivet veut obtenir des réponses, car le député La France Insoumise de Loire Atlantique est soupçonné d'avoir financé sa consommation de drogue avec son enveloppe parlementaire. L'entourage d'Andy Kerbrat explique à Europe 1 que ce dernier est fiché à la Banque de France. Par conséquent, sa carte personnelle, mais aussi sa carte bancaire de l'Assemblée, serait limitée à 400 euros en paiement par semaine. Une fois ces plafonds atteints, le député n'aurait d'autre choix que d'aller au distributeur de billets. Ces cartes sont limitées en paiement, mais pas en retrait, justifie l'un de ses proches. Et c'est justement cet argent en cash qui interroge. Selon la présidente de l'Assemblée, la situation d'Andy Kerbrat n'a pas encore été contrôlée. En cas d'achat de produits stupéfiants avec de l'argent public, la justice sera saisie, indique Yael Braun-Pivet. En attendant, le député Kerbrat ne compte pas démissionner. Pour le moment, on ne se pose pas ce genre de questions, assure son entourage.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Marine Le Pen, bien décidée à se défendre. Elle s'est exprimée aux 20h de TF1 alors qu'elle est menacée par une peine d'inéligibilité. 5 ans sans pouvoir se présenter à aucune élection, assortie de 5 ans de prison dont 2 en ferme. C'est ce qu'a réclamé le parquet dans le procès dit des assistants parlementaires européens du Front National. Un réquisitoire à charge et politique sans précédent, a martelé Marine Le Pen.
Ce réquisitoire est révoltant, profondément outrancier. Il réclame des condamnations qui sont sans commune mesure avec le moindre réquisitoire de même type, allant jusqu'à demander la peine de mort politique avec exécution provisoire contre moi. Dans un dossier dont je vous dis que nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés, ce sentiment de révolte, des millions de Français le ressentent avec moi.
Marine Le Pen qui pourrait se voir privée de candidature à la prochaine présidentielle. La décision finale est attendue début 2025. En bref, en métropole toujours, moins d'un an après les manifestations d'ampleur des agriculteurs, des syndicats d'éleveurs et de producteurs entendent de nouveau faire pression sur le gouvernement. Des actions sont menées pour rappeler l'urgence des mesures afin de défendre la souveraineté alimentaire française. À l'international, le président français Emmanuel Macron est attendu en Argentine pour rencontrer le président argentin dans l'espoir de le raccrocher au consensus international et ce, à la veille du G20 qui doit s'ouvrir au Brésil. Une rencontre qui se déroulera à Buenos Aires, la capitale argentine. Après le G20, Emmanuel Macron se rendra par ailleurs au Chili où il prononcera un discours sur sa politique à l'égard de l'Amérique latine. Le pape François l'a confirmé, il ira bien en Corse, à Ajaccio, le 14 décembre prochain. À 87 ans, il participera à un colloque religieux, une nouvelle qui provoque l'enthousiasme de la communauté catholique sur place. Aux États-Unis, Donald Trump nomme Caroline Leavitt porte-parole de la Maison-Blanche à tout juste 27 ans. Elle deviendra donc la plus jeune à prendre ses fonctions. Elle était jusqu'à présent porte-parole de la campagne de Donald Trump. L'actualité à l'international encore. Le vice-premier ministre et ministre des Finances des îles Fidji a profité de la conférence de l'ONU sur les changements climatiques qui se poursuit à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, pour lancer un appel à la sauvegarde des océans de la planète. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Lors du discours qu'il vient de prononcer à Bakou, le professeur Prasad a notamment déclaré que les océans, je le cite, sont un tampon vital dans l'absorption de la chaleur et du carbone, mais leur capacité à jouer ce rôle se détériore rapidement en raison du réchauffement climatique, des émissions nocives et de la pollution. Il ne s'agit pas là simplement d'un problème pour l'océan Pacifique, a-t-il précisé, car l'effondrement des écosystèmes marins aura des conséquences catastrophiques pour toute la vie sur Terre. Il a ajouté que pour faire pression en faveur d'une action mondiale, la collaboration et le leadership régional sont impératifs. L'autorité morale, la solidarité régionale et la voix unifiée du Pacifique sont plus que jamais nécessaires, a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h07, la pub avant de voir tout le sport et on entre dans la mêlée d'un match contre les All Blacks dans un instant.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
La suite du journal et tout le sport, Mickaël Genesky.
Du rugby, avec ce match France-Nouvelle-Zélande. Demain, les Bleus affronteront les All Blacks au Stade de France. Une semaine après avoir battu le Japon le week-end dernier pour leur premier test match d'automne. Cyril Delamorenerie du service des sports d'Europe 1.
Après les modestes japonais, c'est en effet un tout autre adversaire que l'équipe de France va affronter. Les mythiques All Blacks, triple champion du monde. Mais les Néo-Zélandais connaissent un trou d'air avec une défaite en finale de la Coupe du Monde face aux Sud-Africains. Pour les Bleus qui restent sur deux succès face aux hommes en noir, affronter les Blacks, c'est toujours un moment particulier, assure le sélectionneur Fabien Galthié.
C'est le rêve. Il n'y a pas un joueur en France aujourd'hui qui ne veut pas jouer ce match-là. On s'attend à ce que tout nous pose problème. Je pense que c'est une équipe, connaissant un peu ce peuple, qui est en train de régler des comptes après avoir vécu peut-être certaines années difficiles. Ils veulent reprendre le leadership mondial.
Et Fabien Galthié a décidé d'adapter sa composition d'équipe afin de surprendre l'ogre néo-zélandais. Au poste d'arrière, Romain Burrows fêtera sa première sélection au détriment de Léo Barré. Mais surtout, Mathieu Jalibert n'a pas été retenu pour cette rencontre. Le polyvalent Thomas Ramos sera de nouveau associé à Antoine Dupont à la charnière. Des Bleus qui misent beaucoup sur le champion olympique pour bousculer les redoutables All Blacks.
Cyril Delamorenerie pour Europe 1. Coup d'envoi du match ce dimanche à 7h10, heure de Nouméa. Sur les terrains de football, suite de la 5e journée de la Ligue des Nations avec demain des rencontres Allemagne-Bosnie-Herzégovine et Pays-Bas. Hongrie. On retiendra aujourd'hui la large victoire du Portugal sur la Pologne, 5-1, avec un doublé de Cristiano Ronaldo. La France jouera lundi matin contre l'Italie. En MotoGP, place ce soir à la sprint race du Grand Prix de Barcelone, dernière manche du championnat du monde. L'Espagnol Jorge Martin est mathématiquement en position d'être sacré avant le Grand Prix dans un duel final face à l'Italien Pecco Bagnaia. Une sprint race à suivre à partir d'1h du matin. Le Grand Prix, ce sera demain soir à 00h pour nous. Et puis un mot de boxe avec Mike Tyson qui a perdu son combat de gala à 58 ans face au youtubeur Jake Paul, âgé de 27 ans seulement. Une défaite au point au terme de 8 rounds. Le vainqueur a tout de même empoché à l'issue de ce combat 40 millions d'euros. Un match qui était organisé par Netflix.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
Le sport en Calédonie, ce samedi, il y avait notamment de l'haltérophilie à la salle Omnisport d'Auteuil. Le Barbel Club organisait la deuxième édition de la Coupe de Dimbéal et Anna Colombo.
Oui, et une chose est sûre, il y avait de l'ambiance à la salle Omnisport d'Auteuil. Sans réel enjeu, la Coupe de Dimbéal était l'occasion pour tous les licenciés des clubs d'haltérophilie du territoire, adultes comme enfants, de se mesurer aux autres athlètes de la discipline. Écoutez, Maki Souta, la présidente du Barbel Club de Dimbéal.
Il y a des compétitions par club. En fait, il y a Nouméa, Mondor et Dimbéa. Et on se doit d'organiser une compétition dans la saison. Il y a plusieurs catégories. Il y a U10, U13, U15, U17 et les seniors. Et dans chaque catégorie, il y a des récompenses pour chaque podium. Et chez les jeunes, on essaie de récompenser tous les jeunes. On a été gâtés. C'est plus pour se préparer à la compétition territoriale de Nouvelle-Calédonie qui se déroulera en décembre.
Bon, j'entends quand même, il y a de l'ambiance.
Oui, toujours, toujours. Quand c'est des compètes, on se motive tous et tout, et c'est ça qui est bien.
Pour Joël, coach du Barbel Club, de plus en plus de Calédoniens sont intéressés par la discipline, dont une part non négligeable de femmes, que cela soit pour performer ou pour le loisir.
4 athlètes engagés au sein de notre propre club, 29 au total avec des belles performances, donc le résultat de semaines de travail également pour nos athlètes, donc très positif. C'est des athlètes qui soit sont dans le loisir et ne s'engagent pas sur les compétitions, soit des compétiteurs qui ont envie de, effectivement de performer et puis aspirent à peut-être sortir du territoire.
Parmi les athlètes à suivre au Barbel Club, on retrouve Toy qui fait partie de la présélection des mini-jeux de Palao qui se dérouleront en juillet 2025 dans la catégorie des moins de 113 kilos.
On a atteint l'objectif qu'on avait fixé avec le coach, donc ça s'est très bien passé.
Et justement, quel était cet objectif ?
C'était de valider certaines barres, c'est-à-dire de valider la 105 à l'arraché et la 125 à l'épaulé jeté. Ces genres de coupes, ça nous permet en fait de rester compétitives pour les objectifs à venir.
Et prochaine compétition, la Coupe territoriale de Nouvelle-Calédonie qui se déroulera au mois de décembre.
Sur le lagon, les championnats de Calédonie de 20 longue distance, V3, mais aussi kayak, K2 et OC2 se disputaient sur Lansvata. 37 équipages étaient en lice. Chez les dames, sur un parcours de 15 km, la victoire est revenue au club des Îles sous le vent. 1h21 et 21 secondes d'effort devant le club de Toapin. 1h23 et 7 secondes et la troisième place à l'équipage 2 du club des Îles sous le vent. Chez les messieurs, sur un parcours de 20 km, victoire également du club des Îles sous le vent aux première et deuxième places. 1h41 et 8 secondes pour les vainqueurs. Le club de l'Olympique de Nouméa complète le podium. En cas de messieurs, c'est l'équipage de Geoffroy qui a remporté le titre. À noter la très belle participation du club de Koumac qui a présenté 4 équipages, une très belle deuxième place notamment en Master 40. Chez les juniors garçons, victoire de Maouiva devant Touapin et Koumac. Du surf à suivre encore tout le week-end à Bouraille. Ce sont les championnats de Calédonie de surf, mais aussi de shortboard, de longboard et de bodyboard qui se disputent jusqu'à demain soir. En voile, ce sont les championnats de Calédonie de J70 qui continuent également tout au long du week-end. Notez encore que ce dimanche, il y aura du cyclisme avec le traditionnel Grand Prix Roger Larocque à Nouméa. Une 53e édition organisée par le VCC Mondor à Duco, 54 participants inscrits. Et puis hors du territoire du football, un nouveau match en vue pour la sélection A. Nos représentants déjà qualifiés pour les demi-finales de leur groupe des éliminatoires en vue de la Coupe du Monde, puisqu'ils ont gagné lors de premier match face aux Papous et aux Salomonais, feront face demain aux Fidji. Ils devront tout faire pour assurer leur première place et ainsi éviter la Nouvelle-Zélande au prochain tour. Coup d'envoi de la rencontre à 14h à Port Moresby. 18h passées de 14 minutes, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagée.
Une météo que vous nous détaillez, Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous, et bien pas de vigilance particulière pour cette nuit. Des averses orageuses concerneront encore les Loyautés, l'extrême nord et la façade est. Ailleurs, le temps sera plus sec, même si quelques gouttes resteront possibles par endroit. Le vent d'est-sud-est oscillera entre 10 et 15 nœuds. Il soufflera temporairement à plus de 15 nœuds sur la pointe nord-est et mollira localement sur l'ouest et l'extrême sud à moins de 10 nœuds. Les minimales seront élevées ce soir, comprises entre 19 et même jusqu'à 25 degrés par endroit. Va falloir mettre la clim. Demain matin, des averses modérées se maintiendront dans un ciel chargé de nuages sur la façade est, l'extrême nord et aux Loyautés, avec toujours un risque orageux, notamment sur la pointe nord et le nord des Loyautés. Quelques éclaircies résisteront sur l'ouest, où le temps sera le plus souvent sec, avec néanmoins des averses sur la pointe sud. Le vent de sud-est sera de 10 à 15 nœuds, enfin aux Loyautés et sur la pointe sud avec moins de 10 nœuds.